Bonjour à toutes et à tous, que Dieu soit béni. Une première chose que je voudrais faire, c'est remercier l'Église que vous êtes et le pasteur qui, à l'époque, était là, c'était Luc Coyot. Lorsque nous sommes passés par des épreuves, puisque j'avais fait 2 infarctus, pendant l'opération, 1 AVC de l'artère crânienne, ne pensez pas que j'allais vivre, mais toutes les églises, tous les frères ont prié. Quand je me suis réveillé que des jours plus tard, ma femme ne savait même pas où on m'avait transporté avec notre fille, enfin une de nos filles, et puis la grâce de Dieu agit. Le chirurgien avait dit « il ne passera pas la nuit ». J'ai passé la nuit, même la journée. Et ensuite, ils ont dit « il sera entièrement paralysé ». Alors j'ai été paralysé de tout le côté gauche, de l'œil jusqu'aux pieds, etc. Et tout le monde priait. Et ça, je veux vous en remercier. Parce que notre famille priait, mais la famille de Dieu, elle est extraordinaire. Elle est grande. Et je tiens à la remercier. Et pendant que mon gendre et ma femme priaient, au moment où il a posé ses mains sur ma jambe s'est débloquée, le bras s'est débloqué. Et aujourd'hui, je peux même conduire grâce à Dieu. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous remercier parce que vous faites partie de ceux qui ont intercédé. Souvenez-vous, la famille de Dieu, elle est importante. Que Dieu soit béni. C'est la première fois que je viens dans votre église. J'ai failli me perdre parce que le GPS humain a parfois des failles. Tandis que le GPS divin, il n'en a pas, lui. Sa parole est une boussole qui est sûre. En tout cas, c'est avec joie que nous voulons rendre témoignage de la grâce et de la puissance de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas, Luc Goyot a 4 filles. Nous l'avions dépassé, 5 filles. Pauvre papa. Non. Nous aimons beaucoup nos filles. Il faut dire que l'aînée n'est pas la nôtre. Nous l'avons prise à 2 mois et demi. Elle a 60 ans maintenant. Et nous l'avons élevée. Nous sommes papa et maman. Sauf que je ne suis pas le père géniteur. Elle mesure 1m80. Je ne vous dis pas ma taille. Voilà. Mais nous sommes papa et maman. Nous avons 18 petits-enfants. 3 arrières et bientôt 1/4. Voilà. Je comprends comment sont nées les tribus. Merci. Et tout ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, je vous assure. Et la grâce de Dieu, elle est pour tout le monde. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si, chaque fois que vous vous réunissez, vous vous attendez à une bénédiction de Dieu. Oui. Moi, c'est la raison de notre être, de le louer, comme nous l'avons si bien chanté, puis également de lui dire, Seigneur, nous voulons être bénis également. Alors j'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 5e, merci à notre frère et son épouse de me recevoir avec l'Église. Merci beaucoup. C'est lui qui m'a rappelé que nous nous étions vus dans un camp. Voilà, ça remonte à des années, ça. Je ne dirais pas que j'étais jeune, mais quand même. Et de faire la connaissance de sa chère épouse, que Dieu soit béni. Alors, Matthieu 5, le verset 5. Pardon, verset 7. Matthieu 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. C'est tout. J'espère pas vous endormir avec ce verset. Mais être miséricordieux, ça a 2 définitions bibliques. La première, c'est celle pour nous-mêmes de pardonner à ceux qui nous ont offensés. La 2e définition biblique, c'est nous-mêmes de demander pardon à ceux que nous avons offensés. Il y a ces 2 dimensions de la miséricorde dans la parole de Dieu. Alors, je sais bien, nous sommes tous des héros. Comme Pierre, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ? Quand il dit 7 fois, pourquoi 7 ? Parce que 7, c'est le chiffre de la perfection. Alors, pardonner 7 fois, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Combien de fois vous avez pardonné à votre femme aujourd'hui ? Ou, mesdames, avez-vous pardonné à votre époux ? Et il pensait être un héros. Dieu lui a montré qu'il était un zéro. En tout cas, il manquait un zéro dans son compte. Ce n'est pas 7 fois, mais 70 fois, 7 fois. Alors, les enfants qui calculent bien, là, ils se disent 490 fois. Je vais tenir un carnet de comptes. Combien de fois j'ai pardonné aujourd'hui à Colette ? C'est pas ça. Vous savez qu'il y a 2 domaines dans lesquels Dieu demande la perfection en nous. 2 domaines. Le premier, c'est celui du pardon. Dans Matthieu, au chapitre 5, également, il est dit « Comme votre Père céleste fait briller son soleil sur les justes et les injustes, et il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. » Et ça, c'est le contexte de pardonner. Il dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Il demande pas moins que la perfection. Il faut dire que pour entrer dans le royaume de Dieu, quand il viendra chercher son Église, je n'ai pas intérêt à être fâché avec quelqu'un. C'est les anges qui viendront à la rencontre de l'Église avec le Seigneur. Et eux, ils ne se trompent pas. Ils savent ce qui est dans notre cœur. Pourquoi c'est bon de pardonner ? Eh bien, la Bible nous dit, d'abord, pour être pardonnés nous-mêmes. Vous vous souvenez de la prière que Jésus a laissée comme enseignement, notre Père qui est aux cieux, etc. Souvenez-vous, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme. C'est-à-dire, pareil que moi, je le fais également. Or, si je veux être pardonné par mon Père céleste, il faut que je sache pardonner à mon semblable. Il y a des années de cela, dans une église, il y avait, j'étais jeune, je connaissais le Seigneur, je m'étais engagé avec lui. Il y avait une jeune fille qui avait dit du mal de moi. On n'aime pas qu'on dise du mal de nous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors elle avait dit la longueur d'un doigt. Moi, j'ai dit tout le reste d'elle. Vengeance. Et je savais ce que Dieu me demandait de faire. Vous savez ce qu'il me demandait ? D'aller la voir et de lui demander pardon. Ça, c'est difficile de demander pardon. Vous savez, alors, je suis d'abord allé dans l'endroit où elle habitait, la maison. J'ai vu la maman, il n'y a pas de problème. Je peux voir un tel, elle m'a dit oui. Elle est dans sa chambre, elle fait ses devoirs. Ah, je peux aller la voir, oui. Et avant de frapper à la porte, ça montait, ça descendait. Je n'y arrivais pas. Je pensais, je me disais, avant elle a dit du mal de toi, si tu viens lui demander pardon, qu'est-ce qu'elle va dire après ? Vous savez, ces pensées qui ne sont pas divines, parce que la pensée divine, c'est de demander pardon. Alors, j'ai frappé. Entrez ! C'était sec. Et là, quand je me suis trouvé devant elle, elle était à son bureau. C'est difficile. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, on se salue. Je dis, voilà, je viens te demander pardon. Elle se lève. Je me préparais presque à me protéger. Elle se lève. Elle me regarde, elle me dit, eh bien, moi aussi, je te demande pardon. nous nous sommes pardonnés et nous nous sommes mariés. Ça fait quand même 61 ans et demi que nous sommes mariés. Grâce à Dieu. Toujours grâce à Dieu. Hein. C'est important. Pardonner. Mais, dites-moi, il y a un homme dans la Bible, David, le roi David. La Bible nous dit, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Je ne vais pas m'étendre maintenant pour savoir pourquoi il était considéré comme son cœur, comme le cœur de Dieu. Ce n'est pas mon but. Mais il y a une chose qui est certaine. C'est que David était un homme qui pardonnait. Et dans sa vie, que de fois il a pardonné. Et un jour, il a eu un échec spirituel. Vous vous souvenez dans quel cas, je ne vais pas m'étendre sur son problème. Mais quand il a été repris, il a demandé, il a reconnu la faute, il a demandé pardon à Dieu, et Dieu lui a pardonné. Ça, c'est important. La manière dont je juge les gens, Dieu me jugera. Et si mon cœur est miséricordieux, Dieu sera miséricordieux à mon égard. Vous savez que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas moi qui le dis. Dans l'épître de Jacques, c'est écrit, tous nous bronchons. Ce n'est pas parce que nous sommes convertis que nous sommes encore parfaits. Nous bronchons. Ça veut dire que tous, un jour ou l'autre, nous avons besoin d'être pardonnés par Dieu. Mais si moi, j'ai été intransigeant avec quelqu'un, ben, on me mesurera avec la même mesure que je mesure les gens. Et ça, c'est important. Quand j'ai débuté dans le ministère, il y a quelques années de cela, je me souviens d'un frère qui m'a dit, « Guy, sois toujours miséricordieux. » Et il avait raison. Et ça m'a bien aidé. À Dieu soit toute la gloire. Toute la gloire. Un jour, peut-être que quelqu'un viendra, vous dira des choses qui ne vous feront pas plaisir. Et vous savez ce que dit la Bible ? Il faut qu'il n'y ait aucune racine d'amertume. Aucune racine. Nous avons fait un remplacement en Corse, je me souviens, il y a quelques années de cela. Et quand nous sommes arrivés, le jardin avait été à l'abandon et il a fallu enlever les mauvaises herbes. On a commencé. Je crois que c'était l'affaire d'une demi-journée. C'était l'affaire de plusieurs journées. C'était du chien-dent. Et les racines vont sous terre. Elles s'étendent. C'est très long à faire, très difficile. Il faut tirer, etc. Et ça, c'est tout de suite quand j'ai tiré ce chien-dent, j'ai pensé aux racines d'amertume. L'amertume dans nos cœurs. Si c'est écrit, c'est parce que Dieu connaît nos cœurs. Parce que Dieu sait que nous avons besoin d'être libérés, délivrés. C'est la première bénédiction. Comme je pardonne, tu me pardonnes. Je ne mérite pas, mais il n'y a rien qui fait obstacle à ta bénédiction. Et comme j'aurai toujours besoin du pardon de Dieu, vous savez, un petit exemple. Le lundi matin, quand vous vous rendez au travail, en voiture, il y a des travaux sur la route, il y a des bouchons, il pleut. Je mets le paquet, là. Hein ? Et vous venez de la province, comme moi. J'étais dans une petite ville. Ah là là, en plus, il y en a qui vous klaxonnent, il y en a qui vous passent devant. Enfin, inutile de dire cela, pourtant j'ai été à Paris, mais là, je parle de Toulouse. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a envie de se manifester, on a envie presque d'ouvrir la fenêtre, et puis non. Seigneur, bénis-les, pardonne-les. Vous savez, quand j'étais dans une ville, il y a un jeune, je ne connaissais pas la ville, qui était avec moi. Il me conduisait quelque part, on allait faire une réunion. Et tandis qu'il était au volant de la voiture, il y a quelqu'un qui lui coupe la route. C'était dans un rond-point. Et dans ce rond-point, lui, il était engagé, faisait le tour du rond-point. Il y a une voiture qui lui coupe la route. La veille au soir, j'avais prêché « Pardonnez à vos ennemis, rendez le bien pour le mal ». Il s'est souvenu de cela. Je me souviens, il a lâché le volant d'une main, puis il a dit « Seigneur, bénis-le ». Il vaut mieux ça que de s'arrêter, de sortir à la manivelle, quoique aujourd'hui, on n'a plus de manivelle dans les voitures, voitures modernes. Mais c'est vrai, il y a la joie. Et Dieu se réjouit quand on pardonne. Dieu est très attentif à nos réactions. Souvent, comme disait quelqu'un, on ne connaît pas une personne à ses actions, on connaît une personne à ses réactions. Et dans le domaine des réactions, nous sommes parfois plus rapides que les avions en réaction. Hein. En Suisse, pourtant, ils sont plus calmes. Nous avons vécu à la frontière suisse et ils disent que la seconde, c'est l'espace de temps qui existe entre le passage du feu rouge au feu vert. Il n'est pas passé au vert que les gens vous klaxonnent. Et c'est en Suisse. Alors imaginez en France. C'est pire. Ça, c'est nos réactions. Tout de suite. Dieu connaît nos cœurs. Seigneur, apprends-moi à pardonner. Parce qu'un jour ou l'autre, j'aurai besoin de pardon. La deuxième bénédiction que nous avons dans ce domaine-là, dans Matthieu, chapitre 18 et verset 35, il nous est donné la conclusion d'une parabole que le Seigneur nous annonce. Il y a un roi qui a prêté de l'argent à plusieurs serviteurs et il leur demande de rendre compte et de rembourser. Et il y avait, entre autres, un personnage, un serviteur, auquel il avait prêté beaucoup d'argent. Et il arrive, il rencontre, il dit « Je ne peux pas rembourser ». Le roi, plein de compassion, lui dit « Je te remets ta dette ». Imaginez-vous que le président de la République remette une grosse dette, peut-être les impôts. Et lui, il sort de la présence du roi. Il trouve un autre serviteur qu'il connaît, puisqu'ils sont serviteurs l'un et l'autre. Et puis, il lui avait prêté une certaine somme. Il lui demande de la lui rembourser. Là, l'homme le regarde et fait « Je suis dans l'incapacité de rembourser ». Et ce serviteur se met en colère, l'attrape par le collet, « Tu vas me rembourser !» Et il le fait mettre en prison. Je sais bien ce que vous pensez. Il aurait dû pardonner. Il aurait dû remettre la somme comme on lui avait remis la sienne. Quand le roi l'apprend, bien sûr, il est irrité, il le fait venir et lui dit, « Ne fallait-il pas que tu remettes ta dette comme moi je t'ai remis la tienne ?» Et là, il réfléchit et lui nous est dit, « Il le livra au bourreau. » Retenez bien l'expression, c'est Jésus qui le dit. Il le livra au bourreau. Or, cette expression, vous savez où elle est utilisée? Je vais vous donner un exemple. Lorsque l'apôtre Paul parle de quelqu'un, il dit « J'ai livré son corps à Satan pour que son âme soit sauvée. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il a livré le corps de ce personnage qui fait du mal à l'Église et qui s'en fait à lui. Il lui a livré pour que l'adversaire soit à même de l'éprouver. Parce que quand on est éprouvé dans son corps, on réfléchit, on pense Ça, je peux vous assurer qu'on le fait. Moi, quand je suis passé par ces épreuves-là, on réfléchit. Le livre de Job, je l'ai lu en entier. J'avais déjà lu avant, mais je l'ai lu en entier et jusque dans les détails. Et là, la miséricorde livrée à l'adversaire. Et c'est ainsi que d'autres passages de la parole de Dieu nous enseignent. Admettons dans 1 Corinthiens, c'est un chapitre que nous connaissons. La Bible nous dit, c'est pour cela, en prenant la Sainte-Cène, injustement. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler injustement ? Je vais donner au moins un détail. En prenant la Sainte-Cène injustement, l'apôtre Paul dira, il y a beaucoup de malades, d'infirmes, et qu'un grand nombre sont morts. Ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus. Mais leur vie a été abrégée, parce qu'au fond de leur cœur, ils refusaient de pardonner. Je n'ai pas dit qu'ils étaient perdus. J'ai dit qu'ils sont éprouvés. Et là, peut-être que Dieu leur avait préparé bien des œuvres à accomplir. Mais comme ils n'ont pas voulu se soumettre à Dieu, de pardonner, comme ils n'ont pas voulu s'humilier, parce que c'est de l'humiliation de pardonner, à quoi serviront-ils ? Parce que l'amertume, le manque de pardon, la haine, c'est quelque chose qui se développe comme des racines. Et je pense, admettons, à Job, qui a été éprouvé dans son corps, sans qu'il n'ait rien fait, sans qu'il ait fait de mal à qui que ce soit. C'était un enjeu de Satan, qui disait à Dieu, c'est normal qu'il t'aime et qu'il te serve ce Job. Tu le bénis, tu le chouchoutes. Et Dieu a dit, ben, touche son corps. Et Satan a touché son corps. Il a touché sa famille. Il a touché ses bien-aimés. Et la Bible nous dit que Job, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il a été malade. À quel moment a-t-il été guéri ? Oh, Dieu lui a parlé, l'a enseigné sur Monsieur Job qui savait beaucoup de choses, qui savait tout. Il lui a montré qu'il ne savait rien du tout. Où étais-tu quand j'ai créé le premier animal sur la terre ? Ah bon ? Non, je n'étais pas là. Bien sûr, il n'était pas là. Dieu lui a rappelé qu'il était Dieu. Job n'était qu'un homme qui lui était agréable, c'est sûr. À quel moment il a été guéri ? Après avoir parlé au cœur de Job, Dieu se tourne vers ses amis qui sont venus pour le consoler, le réconforter. Alors, quels amis ? Ils viennent le voir. Il passe quelques journées à se taire. Ça, c'était une bonne chose. Et au moment où ils ont ouvert la parole, ils ont dit à Job, tu es malade, c'est bien fait, tu l'as cherché. C'est parce que tu as quelques péchés secrets que Dieu connaît et maintenant il te juge. Vous voyez la consolation ? Mais dans l'Église de Dieu, ça ne se fait pas, ça. Hein ? Non. Dans l'Église de Dieu, on ne juge pas. Jamais on a la pensée de dire à un frère ou une sœur qui est malade, tu as péché, toi. Si, ça arrive, même ici ? Non, c'est bien. Donc, vous avez déjà pardonné. Mais à quel moment Dieu dit à Job, va prier pour ces amis qui t'ont jugé. Va prier pour ces amis qui t'ont découragé. Va prier pour ces amis qui t'ont accusé injustement. Prie pour eux. Et Job s'exécute. Vous savez qu'avant de prier pour quelqu'un, il faut aimer. Une prière où il n'y a pas le fond de compassion ne sera jamais exaucée. Une prière pour quelqu'un, si je n'ai pas la compassion de Dieu, je ne serai pas exaucé. Et ça, c'est important. Donc, il a fallu qu'intérieurement, Job puisse pardonner à ses trois amis. Et quand il a prié, Dieu les a bénis, pardonnés, et Dieu l'a guéri à ce moment-là. C'est à ce moment-là que Dieu l'a guéri. Seigneur, la bénédiction de Dieu. Je pourrais, je ne suis pas le seul, hein, les bien-aimés qui sont là dans la prédication de l'Évangile peuvent le dire. Nous avons connu des gens qui étaient malades et que Dieu a guéri après qu'ils aient pardonné. Je me souviens, je faisais une journée, c'était à Limoges, un mercredi, je me rappelle. Et c'était la première fois que je prêchais là. Et au moment de l'imposition des mains, plusieurs personnes sont passées pour que nous prions avec. Et là, il y a une dame qui vient et j'ai senti dans cette dame de la haine. Alors je lui ai dit, madame, vous avez de la haine dans votre cœur ? C'était une inconvertie, je crois. Elle m'a dit, oui monsieur, je préfère que ma fille meure. Textuellement, ça a été sa phrase. Vous imaginez, comment voulez-vous qu'elle soit bénie ? Je lui ai dit, madame, est-ce que vous voulez demander pardon à Dieu de votre réaction et demander à Dieu de bénir votre fille ? Elle m'a dit non. Mais je lui ai dit, moi non plus, je ne prie pas pour vous. Et elle est partie. Il faut que dans mon cœur, il y ait un pardon, un amour. Et elle ne voulait pas pardonner. Par contre, nous avons tellement de personnes qui ont été guéries par le Seigneur quand on aime. Je pense à cette dame qui venait à nos réunions et elle avait donné son cœur au Seigneur. Elle était toujours sur la deuxième rangée de chaises au bord. C'était sa place. Mes filles l'aimaient bien, cette mamie. Vous savez pourquoi ? Parce que dans son sac, elle avait toujours des bonbons. Alors les filles, elles allaient l'embrasser. Je ne vous dis pas son prénom, hein. Et elle avait les cheveux teints en rose. On l'appelait la mamie rose, pas la panthère rose, hein. La mamie rose. Elle était gentille et souriante, joviale. Elle aimait rire. Dimanche matin, elle est là au culte, comme elle l'est habituellement, heureuse. Le culte se termine. L'après-midi, elle vient à la réunion d'évangélisation à 15h. Tout va bien. Elle est heureuse. La réunion se termine. Nous nous séparons. Nous rentrons à la maison avec Colette et les enfants. Et là, je reçois un coup de fil d'une infirmière. Vous êtes le pasteur ? Oui. Il faut que vous veniez voir Madame Untel. Elle va très très mal. Nous attendons le médecin. Elle voudrait vous voir. C'était la dame en question, la mamie Rose. Alors, je me suis dit, mais comment ça se fait ? Ce matin, elle était joviale, elle était bien. Cet après-midi, elle était tout sourire, elle allait bien. Et là, tout d'un coup, après la réunion, ça ne va pas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, j'enfile une veste et puis je prends la voiture. Et dans la voiture, je prie, mais je ne ferme pas les yeux. Je prie, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe chez elle ? Et voilà la réponse de Dieu. Elle a de la haine. Ah ! Bon. Alors j'arrive. L'infirmière n'était pas encore partie. Donc j'entre. Et puis elle attendait le médecin. Et quand je rentre, la première chose qu'elle me dit, parce qu'on s'était salué le matin, elle me dit, vous savez, M. Galifot, j'en ai après personne. Moi, Dieu m'avait dit le contraire. Alors, je la laisse parler. Brave mamie. Et c'est vrai qu'elle nous aimait beaucoup avec Colette. Et puis, je lui dis, mamie, pendant que je conduisais, je demandais à Dieu ce qu'il en était. Et il m'a dit que vous aviez de la haine envers une personne. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, frère. Après sa fille, cette femme était veuve depuis longtemps. Elle avait hérité de son mari une maison qu'elle voulait garder. Et la fille qui avait une famille aurait bien aimé la maison. Et ça n'allait pas. C'était fâché. C'était disputé justement après les réunions. Par téléphone. Alors j'ai regardé, je lui ai dit, mamie, à votre âge, c'est pas de cette maison que vous avez besoin. C'est de préparer celle qui est en haut, qui vous attend. Et là, je me souviens, elle a pleuré. Elle m'a dit, vous avez raison, pasteur. Priez pour moi. J'ai prié. Et je n'étais pas parti qu'elle a téléphoné à sa fille. Elle lui a dit, écoute, tu es ma fille et je t'aime. La maison, ça m'est complètement égal. Elle est pour toi. Et Dieu a guéri cette femme des crises cardiaques. Elle est morte il y a 2 ans. Elle approcherait les 100 ans maintenant. Dieu est grand. Il est celui qui guérit. J'aimerais que vous le sachiez. Il est formidable. Peut-être que vous n'êtes pas atteint physiquement, mais peut-être que moralement. Il y a un verset qui m'a toujours frappé dans la parole de Dieu. C'est dans le livre des Proverbes, chapitre 27, verset 3. Où il est dit ceci, la pierre est pesante et le sable est lourd. Si je trouve devant moi une pierre aussi grosse que ce mobilier, je ne vais pas essayer de la soulever, je ne vais pas essayer de la pousser, je sais que je n'en ai pas la force. Mais savez-vous que tous les grains de sable de gravier, accumulés, formant le même volume, pèse autant que la pierre. Or, la différence, la pierre, quelque chose qu'on envoie, on reçoit là, une grosse insulte, un mensonge, une injustice, tandis que le gravier, c'est des grains de sable. Et là, je vais être plus précis dans ce que je pense, entre mari et femme. Est-ce qu'il n'y a pas des grains de sable ? Seulement ces grains de sable que je garde, ils s'accumulent et un jour, ça explose. Un jour, ça part. Et là, on assiste. Et je ne juge pas, Dieu m'en est témoin, puisque nous-mêmes dans la famille, nous passons par de telles épreuves et le foyer est brisé et éclate. C'est le cumul de ces grains de sable. Un grain de sable. Ajoutez un grain de sable. Ajoutez un grain de sable. Chaque chose, tous les jours, nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de grains de sable dans nos vies. Je ne juge pas, hein, croyez-moi. De tout mon cœur, je ne juge pas. Au contraire, tout à l'heure, avec les bien-aimés, nous prierons pour vous et avec vous. Parce que je veux que nos victoires soient les vôtres. Amen. Ça, c'est la guérison intérieure. Parce que de l'intérieur, notre corps en est affecté. De l'intérieur de notre cœur, il y a, regardez, les ulcères à l'estomac. Souvent, c'est en relation avec de l'anxiété, des inquiétudes, et je pourrais encore citer autre chose, les jalousies. Vous savez que les jalousies, ça se manifeste également physiquement. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous en parler. Nous avons un gendre qui était chirurgien, mais je n'ai rien à dire là-dessus. Sinon que lui, c'est un chirurgien ophtalmo, et nous soigner à l'œil. Voilà. Ce qui était valable. Seigneur, est-ce que je n'ai pas accumulé trop de grains de sable ? C'est tellement plus facile, léger, de dire, Seigneur, je lui pardonne, tu me pardonnes. Ça m'est arrivé de demander pardon. Ce n'est pas quelque chose d'acquis une fois pour toutes. C'est marcher dans la perfection. C'est pour ça que Jésus a dit 70 fois, 7 fois. Ça fait partie de la marche. Et tout à l'heure, dans la lecture de la Sainte-Seine, le pasteur Luc disait de s'éprouver soi-même. Ça, ça en fait partie. Est-ce que j'aime mon frère et ma sœur? Est-ce que j'aime ceux qui sont autour? Vous savez, j'ai remarqué que pour prier pour les gens, il faut les aimer. Il faut les aimer. Un jour, je me rendais à la poste dans la ville où nous étions et il pleuvait, j'avais le parapluie. Au moment de rentrer à la poste, il y a quelques marches à monter. Il y avait un vagabond qui était là et il me dit, je peux garder votre parapluie, monsieur? Sous-entendu, il donnera une pièce après. Je lui dis, non, je vais le garder avec moi. Je rentre pour faire ce que j'avais à faire à un guichet. Et puis, au moment de sortir, je sors et puis je lui donne quelque chose. Il est toujours là. Il me regarde et fait, merci mon fils, le bon Dieu vous le rendra. Alors je lui ai dit, je vais vous dire une chose, je crois que le fils, il est plus âgé que le père. Il me regarde et fait, oh non. Je lui ai dit mon âge, il me dit, mais respect monsieur, c'est vrai, vous êtes plus âgé que moi. Et puis, j'ai dit, le bon Dieu, je le connais. Et parce que je le connais, je sais qu'il m'aime et qu'il vous aime. Et là, tandis que les gens montaient, descendaient à la poste, j'étais assis à côté de lui, je ne sais pas si vous voyez, avec la cravate, la veste, le costume. J'étais assis sur les marches et puis il pleuvait. Et les gens passaient. Personne ne m'a donné une pièce. Hein. Et là, nous avons parlé avec ce frère, cet homme, pardon. Il m'a raconté sa vie. C'était un ancien marin, sapeur, pompier, marin de Marseille. Divorcé, pris par l'alcoolisme. Il avait perdu tout, toute sa famille, etc. Un véritable clochard. Et nous lui avons parlé, nous lui avons témoigné, nous l'avons aidé, nous avons offert une Bible. Nous l'avons suivi un certain temps. Puis moi, j'ai quitté la région après. Que Dieu soit béni. Il faut aimer. Et quand on aime, on peut prier. Il se passe quelque chose. Oh Dieu soit béni. C'est la guérison. Maintenant, j'aimerais voir une troisième bénédiction. Il y en a deux, hein, trois et quatre, et ça sera terminé après. La troisième bénédiction, voilà ce que nous dit l'Écriture lorsque nous lisons Romains chapitre 12, versets 17 à 21. Il nous est dit ceci. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes ou avec tous les hommes, etc. Et il nous est dit, c'est ainsi que tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Oh, j'ai compris. Je vais ramasser des charbons ardents sur la tête de la belle-mère. Non, ce n'est pas comme ça ici. Mais ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Parce que le passage de l'Ancien Testament duquel il est tiré, c'est-à-dire Proverbes 25 et versets 21 et 22, il nous est dit, si ton ennemi, etc., enfin, donne-lui du pain à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, de l'eau à boire. Et il est dit, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Ce n'est pas des charbons pour les faire brûler dans les feux de l'enfer. Ce sont des charbons ardents de purification. Chaque fois que nous faisons du bien à quelqu'un qui nous a fait tort et du mal, nous amassons la bénédiction de Dieu et la grâce de Dieu sur eux. Dites-moi, qu'a fait Jésus quand il est mort sur la croix? Crucifié à l'agonie. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. S'ils n'avaient pas fait cette prière, je me permets de vous dire que ni vous, ni moi, ni ma femme, ne serions là aujourd'hui. Mais il nous a pardonné. Avant même que nous le connaissions, il nous a pardonné. Je pourrais penser également à Étienne, le premier martyr chrétien, lorsqu'il y a eu la persécution au réveil de l'Église. Il est lapidé. Et parmi ceux qui sont là à le lapider et à prouver sa lapidation, il y a un jeune homme qui s'appelle Saul de Tarse. Étienne, dans sa prière, dira « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Autrement dit, pardonne-leur. Ne tiens pas compte de leur péché. Bénis-les. Et Saul de Tarse deviendra celui qu'on appelle l'apôtre Paul. Parce que quelqu'un a prié. Parce que quelqu'un a prié. Priez, ô Dieu, sois béni. Un jour, nous discutions avec ma femme. Elle a été abandonnée à l'âge de 2 ans par son père. On l'a revue de temps en temps, je ne sais plus combien. Moi, quand je l'avais aperçue, et quand nous nous sommes mariés, bien sûr, il a fallu que j'aille demander, parce qu'elle n'était pas encore majeure, elle était mineure, elle avait 20 ans et demi. La majorité, c'était 21 ans. Alors, il a fallu que j'aille voir le papa pour lui demander la main de sa fille. Enfin, pas que la main, hein, mais c'était comme ça. Du côté de la maman, il n'y avait pas de problème, la maman était chrétienne. Et il m'a dit oui, tant pis qu'il me connaissait. Et puis, on n'a jamais eu de relation. Il n'était pas à notre mariage. On n'a jamais eu d'échange. On a passé des années comme cela. On est allé le voir une fois au moment où la grand-mère partait dans l'éternité. Ma femme lui avait écrit, pas de réponse, pour lui dire qu'elle lui demandait pardon pour son silence et qu'elle le pardonnait de son silence. Rien, pas de réponse. Les années ont passé. 25 ans après, j'allais faire 20 ans. Ah, 20 ans après, j'allais faire une mission dans la ville où il habitait. Je dis à Colette, viens avec moi. À l'époque, nous étions en Savoie. On allait dans le sud-ouest. Viens avec moi. Nous en profiterons pour aller voir ton papa. Nous descendons. Nous sommes allés le voir. Il ne connaissait pas nos filles. Il n'y en a qu'une qu'il avait aperçue un jour, je sais, avec le frère de ma femme. Il ne connaissait pas nos filles. Il ne connaissait pas nos petits-enfants. Nous lui avons apporté des photos qu'on lui a laissées. Et je me souviens quand il nous a salués au moment de partir, il a dit à Colette, ma fille, ne reviens pas dans 20 ans, je ne serai plus là. Il faut dire que quand nous l'avons vu, c'était un homme qui était courbé en deux. Il était comme ça, courbé en deux. Je me souviens, il avait les yeux bleus. Regardez Colette. Et puis, nous sommes partis. Des années après, 3 ans après, je passe sur les détails, hein. Ma femme a un rêve. Et dans ce rêve, elle voit son père, je dirais, en difficulté. Je ne sais pas sur les détails. Et elle prie. Elle prie pour lui. Elle prie et elle pleure. Alors que jamais n'était le sujet de nos discussions. Pour nous, c'était un inconnu. Elle pleure. Imaginez le temps qui avait passé. Et 2 jours plus tard, ou 3 jours plus tard, elle apprenait que Dieu avait repris son papa. Mais Dieu encourageait ma femme parce que un jour, Dieu lui a donné un songe. Souvent, Dieu lui a donné des songes et des visions. Et son père lui disait, Merci, Colette, d'avoir prié et pleuré pour moi. » Et ça, il ne pouvait pas le savoir. Nous étions à Chambéry et lui, il était à Villeneuve-sur-Lot. Il ne pouvait pas le savoir. Mais nous savons où il est. Que Dieu soit béni. Et ça, ça a été de la passion, de la compassion, des larmes pour qu'il soit sauvé. Pour que les gens soient sauvés, il faut que nous les aimions. Je pourrais m'étendre dans ce domaine-là et raconter beaucoup d'expériences. Seigneur, désire sauver des gens. Je me souviens d'une personne qui avait écouté la prédication. Elle était à Royan, fâchée avec sa mère depuis des dizaines d'années qui, elle, habitait Paris. Elle lui téléphone après le culte. Elle ne se parlait plus. Elle lui dit, « Maman, je te demande pardon et je te pardonne. » Le lendemain, ça c'était un dimanche, le lendemain, le lundi, cette femme prend le train, descend de Paris à Royan. Elle tombe dans les bras l'une de l'autre et là, elle l'amène à l'église. Sa mère se convertit. Oh, je me rappelle, c'est des choses qui me restent gravées. Que Dieu soit béni. Le pardon. Vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'il peut faire. Comment, si vous ne pardonnez pas à quelqu'un que vous connaissez bien, que vous aimez, un membre de votre famille, comment pouvez-vous avoir la foi et croire que Dieu va sauver des gens qui sont dehors, des vagabonds, des prisonniers, qu'ils vont être pardonnés alors que vous n'êtes pas capable de pardonner? C'est important. Là. Seule fois où je suis allé en prison, pour prier, je précise, c'était en Polynésie. Nous allions prêcher à des prisonniers. Alors, il y avait deux catégories de prisonniers. Il y avait ceux qui étaient condamnés pour tout le temps, à vie, grands criminels. D'autres qui avaient des peines à purger de 10, 15 ans. Et là, je me souviens du message que j'ai partagé, ce qui compte, ce n'est pas le commencement d'une chose, c'est sa fin. On peut tous mal commencer, on peut tous bien finir avec la grâce de Dieu. Et c'était le thème de mon message. Et je me souviens, parce qu'on était derrière les grilles, avec eux. Je ne sais pas si vous voyez le gabarit, je ne sais pas si vous voyez le gabarit des Tahitiens. Ils sont grands, forts. Quand je dis forts, musclés. Puis à la fin, il y en a un, il me dit, « Je peux vous parler, pasteur ?» Oui. Il me dit, « Vous croyez que Dieu m'aime ?» Oh, je dis, « Oui, j'en suis persuadé. » Et intérieurement, je priais le Seigneur, je disais, « Seigneur, permets-moi de lui dire les mots qui lui conviennent. » Et puis il me regarde, il me dit, « Vous ne savez pas ce que j'ai fait ?» Je dis, « Oui, mais le Seigneur a donné sa vie pour des prisonniers, pour des vagabonds, pour des prostituées, pour des bandits. Il a donné sa vie pour vous. » Il me dit, « Monsieur, j'ai tué ma femme de sang-froid. » Je comprends la culpabilité qu'il ressent. Et je me souviens, on a prié. J'ai vu cet homme qui pleurait. Mais avant, il fallait que je sois convaincu que Dieu l'aimait. C'est important. Oui, si nous aimons les gens, si nous pardonnons, je peux prier alors pour les autres. Que Dieu soit glorifié. J'aime un tel Père Céleste. J'aime un tel Dieu. J'aime un tel Sauveur. Ah, Dieu soit la gloire. Le temps passe vite. J'aimerais parler du quatrième point. Quatrième bénédiction de Dieu. Si je pardonne. C'est en lisant dans l'évangile de Luc, chapitre 11, on ne va pas faire la lecture, puisque ça va du verset 1 à 13, mais il est parlé du Notre Père à nouveau, où il est dit qu'il, si nous pardonnons nos offenses, il nous pardonne. Et sitôt après, Jésus empiète sur un passage où il dit « Si nous avons soif du Saint-Esprit, il nous le donnera. » Et comme nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, nous ne leur donnons pas un serpent à manger s'ils ont besoin de faim, s'ils ont besoin de pain. La Bible nous dit « Ainsi votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Mais la condition, la base, c'était le pardon. Est-ce que nous pouvons réaliser que si, au fond de moi, j'ai de la rancune, de l'amertume, un mauvais sentiment à l'égard de quelqu'un, je peux toujours demander le Saint-Esprit, je peux demander à tous les pasteurs de passer, qu'ils m'imposent les mains, tous les évangélistes, tous les révivalistes, je peux leur demander, ça ne changera rien, le problème il se trouve en toi. Il faut que le pardon habite en toi et il te baptisera du Saint-Esprit. Dans une église, nous étions dans la région parisienne, je me souviens, on avait eu le culte le matin, Dieu s'était manifesté. Entre midi et 2 heures, nous étions à jeûner et prier, comme beaucoup le font dans toutes les églises. Et tandis que nous étions là, en train de jeûner et prier, je me souviens, j'étais à genoux, à la première rangée. À l'époque, on se mettait à genoux. On avait nos petits coussins, là. Enfin, je suis un vieux. Hein. Et puis, tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit « Va prier pour Mercedes. » Ce n'est pas une voiture. Hein. C'est son nom, d'origine espagnole. Alors, je me demandais pourquoi, parce qu'elle était dans le culte, était même restée. C'est une femme qui aimait l'ambiance. Elle était également joviale. Elle était contente de venir. Elle aimait les chants. Alors, elle se plaisait. Je ne comprends pas. Pourquoi aller prier pour elle ? Je me lève. Elle était, elle, à la dernière rangée. Je vais la voir. Et puis, je commence à prier. Et là, le Saint-Esprit me montre l'amertume qu'elle a au fond du cœur, la haine. Je regarde, je dis, Mercedes, vous avez de la haine ? Elle me dit, Monsieur Galifot, je suis juive et toute ma famille, sans exception, est morte dans des camps de concentration. Je marque un temps de silence. Je peux comprendre des réactions comme cela. Je peux comprendre ce qui se passe. Et je l'ai regardé. Je dis, Mercedes, est-ce que vous êtes prête à demander pardon à Dieu et à pardonner à ceux qui ont fait du mal ? Elle me dit, Monsieur Galifot, je ne peux pas. Je lui dis, Mercedes, je ne vous ai pas demandé si vous pouvez. Moi non plus, je ne peux pas. Mais est-ce que je le veux pour plaire à Dieu et pour entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance ? Elle m'a dit, priez pour moi, pasteur. J'ai appelé des frères qui étaient là. Nous avons prié. Et tandis que nous étions en train de prier. Je l'ai vue pleurer. J'ai entendu demander pardon. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. Elle n'était pas baptisée d'eau encore. Elle a été baptisée du Saint-Esprit instantanément. Fallait que les chaînes tombent. Ah, le manque de pardon. J'ai eu le privilège d'aller en 1992 en Égypte pour faire une mission dans plusieurs villes, et à l'endroit où j'étais, à Théma, je prêchais et j'avais un interprète qui me traduisait. C'était un Égyptien, professeur de français. Alors, il se débrouillait plus que bien. Hein. Et alors, on avait convenu, chaque réunion, de se retrouver au moins un quart d'heure à 20 minutes avant pour voir le texte, dire ce que j'allais dire pour que nous puissions nous comprendre. Et ce jour-là, 20 minutes avant, il n'est pas là. Un quart d'heure avant, il n'est pas là. 10 minutes avant, il n'est pas là. 5 minutes avant, il n'est pas là. L'heure arrive, il n'est pas là. 5 minutes de retard, il n'est pas là. 10 minutes de retard, il n'est pas là. Alors, je regarde le pasteur de l'endroit. Moi, je ne parle pas en égyptien, hein. En arabe. Et puis, je le vois arriver un quart d'heure de retard. Et il vient s'asseoir à côté de moi. Je lui fais voir juste l'endroit qui est le texte de base, mais je n'ai même pas le temps de lui expliquer. On se lève, et quand je prêchais, je sentais que ça ne passait pas. Il y avait un obstacle. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je sentais que c'était dur. Je termine la prédication, et il me dit, « Pasteur, ce soir, vous avez parlé pour moi. » Ah bon ? J'avais parlé, ce n'était pas le même sujet, mais c'était sur le pardon. Alors, il me raconte, étant enseignant dans un collège, il avait fait signer une pétition contre un professeur musulman pour quelque chose, je ne sais pas. Il y avait eu un malentendu. Il avait fait signer une pétition contre ce professeur. Lui, chrétien. Alors, il me dit, je sais ce qu'il me reste à faire. Il est parti. Ça, c'était le jeudi soir. Le vendredi, je n'avais pas de réunion. Mais le samedi, j'avais 3 réunions. Matin, après-midi, fin d'après-midi et soir. Et je le vois le samedi. Il m'interprète. Ça passait bien. Quand il était rentré au lycée, il avait fait arrêter la pétition et il avait demandé pardon au professeur musulman. La pétition s'était terminée et le samedi midi, première réunion, je me souviens sur quoi je prêchais, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et là, tandis que je prêchais là-dessus, moi je termine, je dis amen, je prie, il traduit la prière, il interprète la prière, et puis moi, je n'ai plus rien à dire, et lui, il continue à parler. Et les gens ouvraient les yeux et le regardaient, et moi, je ne comprenais rien. Alors, je le regardais, et lui, il était à l'aise, priait de tout son cœur. Et les gens le regardaient, il me regardait, je ne comprenais rien. Le Seigneur venait de le baptiser du Saint-Esprit. Après le message, son cœur a été libéré, pardonné. Oh, mes frères qui sont dans le ministère pourraient partager certainement les mêmes expériences, n'est-ce pas ? Soit Luc ou notre frère, Nathanaël, que Dieu soit béni. Oh, le pardon, c'est l'ouverture aux fenêtres du ciel, au grenier de Dieu, aux œuvres que Dieu a préparées d'avance. À lui soit toute la gloire. Vous avez remarqué comment Dieu pardonne à Pierre. Parce que je sais, moi, les Français, je suis Français, plus moi je le crois, même si j'ai un nez peut-être d'un Sicilien ou autre, ça c'est autre chose, mais oh, je lui pardonne. C'est tout. Mais j'oublie pas. C'est pas comme ça que ça se passe en France. Imaginez-vous que le Seigneur nous dise, je leur pardonne, mais je n'oublie pas. Imaginez-vous que je dise à Colette, je te pardonne, mais je n'oublie pas ce que tu as dit. On ne serait pas mariés. Non, c'est important. Pierre a renié Jésus autour d'un feu. Attention, il l'a fait, le reniement, publiquement, devant une foule, devant des témoins. Et je suis convaincu que Pierre a dû se dire plus d'une fois, pour moi, le ministère, c'est fini. Pour moi, c'est terminé. Et puis, Jésus est mis à mort. Jésus est ressuscité. Que Dieu soit béni. Il est vivant. Et Jésus, alors qu'ils ont pratiqué la pêche toute une nuit sans rien prendre, Jésus a allumé un feu il les attend sur le rivage. Et là, il dira à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre lui dit, « Oui, tu le sais, Seigneur. » Il lui pose combien de fois la question ? 3 fois. Et Pierre a renié combien ? 3 fois. Et là, Jésus va le restaurer. Quand je dis il va le restaurer, il va le reprendre dans le ministère. Je réfléchis, c'est tout. Je dis rien. Certains me comprennent. Il le reprend dans le ministère. Je t'ai appelé à une œuvre, tu vas continuer cette œuvre. Parce qu'il a demandé pardon. Parce qu'il s'est humilié. Il nous pardonne. Et parfois, il nous fait repasser dans des circonstances similaires à nos échecs, non pas pour nous enfoncer, mais pour nous montrer et nous révéler qu'il nous donne la victoire. Pierre, je suis avec toi. Tu paîtras mes agneaux, tu paîtras mes brebis, tu seras encore un pécheur d'homme. Si nous savons pardonner de tout notre cœur. Je ne sais pas, moi je ne vous connais pas, je vous dis bien, c'est la première fois que je mets les pieds à Colomiers dans l'église, que je suis heureux de connaître, et bien sûr de saluer vos prédicateurs, et de vous saluer vous aussi, mais peut-être, et ça j'en suis convaincu, il y a une personne, pour ne pas dire plusieurs, qui ce matin se trouvent là et ont des racines d'amertume. N'attendez pas la bénédiction de Dieu tant que ces racines ne disparaîtront pas. Oui, ne faites pas comme une dame me disait, mais c'est elle qui a commencé. Non. N'oublions pas, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, mais Dieu nous fait grâce, et grâce sur grâce. J'aimerais que nous sondions nos cœurs, que nous prions, et ensuite je ferai un appel. Si le pasteur me le permet, oui, Dieu soit béni. Un appel afin que Dieu multiplie ses bénédictions. Seigneur, nous sommes devant toi et je sais que tu es présent dans ce lieu depuis le début des chants, des cantiques que les enfants ont interprétés, que l'Église a chanté de tout son cœur. Tu es là, présent. Et parce que tu es là, nous nous attendons à ta bénédiction. C'est elle que nous réclamons. Seigneur, nous voulons être bénis de Dieu. Je te prie maintenant de restaurer ceux qui ont besoin intérieurement. Je te prie de guérir physiquement. Je te prie de pardonner ceux qui ont des racines d'amertume. Que maintenant, l'ennemi qui croyait les paralyser dans leur foi, qui croyait les stopper dans l'œuvre que tu leur as préparée d'avance, que l'ennemi soit maintenant réduit à néant et que le nom de Jésus soit glorifié par les victoires dans son Église. Seigneur, baptise du Saint-Esprit. Je te dis merci parce que tu es dans ce lieu et je sais que nous pouvons compter sur toi. Seigneur, tu vois dans mon cœur qu'il n'y ait aucune amertume, aucune raison de me plaindre de qui que ce soit, mais donne-moi un profond amour, un grand amour, une grande compassion pour que tout soit béni. Amen. Alléluia. Tandis que nous restons dans le recueillement, j'aimerais faire un appel et demander à ceux qui le désirent, qui ont besoin d'être pardonnés ou de pardonner à quelqu'un, de venir et de se mettre devant sur le côté gauche. Si vous avez besoin, je ne vous jugerai pas. Je suis passé par là. Je ne vous jugerai pas. Mais je prierai avec vous. Vous qui avez besoin de pardonner à quelqu'un, s'il est là ou dans les environs, vous pouvez lui demander tout à l'heure, en lui téléphonant, en le visitant. Mais venez et nous prierons pour vous. Amen. Vous mettez sur le côté qui est à notre gauche. Si certains sont malades, attention, toute maladie ne provient pas d'un manque d'amour. Si hier soir, vous avez mangé 2 bols de chocolat et que vous ayez une crise de foie cette nuit, ce n'est pas que vous manquiez d'amour. Mais si il y a pour vous une raison, parce que vous conservez de l'amertume pour quelqu'un, venez au milieu pour la guérison. Et nos frères prieront pour vous. Et Dieu va guérir. Alléluia. Si quelques-uns veulent être baptisés du Saint-Esprit ou recevoir des dons du Saint-Esprit, vous venez sur la droite et nous prierons pour vous maintenant.